la Maison Commune. Le magazine Nature et Environnement de RCF Isère, avec Pierre Blanc.
Bonjour à tous, nous partons pour la vallée himalayenne du Zanskar. Mon invité, que de fidèles auditeurs de RCF reconnaîtront rapidement, rencontre là-bas des nonnes bouddhistes du Tengri, si j'ai bien prononcé, qui n'ont jamais quitté leur montagne. Elle les emmène à la découverte de l'Inde, leur pays. Un voyage initiatique raconté dans son film documentaire intitulé « Semeuse de joie ». Ce sera d'ailleurs le titre de cette émission et je peux vous dire que les semeuses de joie, la planète, elle aime. Mon invité, Caroline Riegel. Caroline Riegel, je vous laisse le temps de vous présenter. Je vous remercie tout de suite d'avoir accepté notre invitation. Qui êtes-vous, Caroline Riegel? Une semeuse de joie?
Je l'espère, en tout cas. C'est plutôt une belle perspective. Avant ça, je suis une femme, plus tout à fait jeune, pas encore trop vieille non plus, une Alsacienne pour mon lieu de naissance, pour mon ancrage, une ingénieure en construction hydraulique, mais pas que, un peu trop libre et trop indépendante sans doute pour rester dans un seul domaine.
Donc vous avez, si vous le dites vous-même, vous touchez à d'autres domaines, lesquels par exemple?
Oui.
Faites-nous un peu le tour de votre parcours.
Bah d'abord, je pense d'abord quelque part une voyageuse, enfin une femme qui a eu besoin de découvrir le monde, de rencontrer d'autres cultures, de se connaître à travers le monde, de connaître l'homme, l'être humain, ce qu'il porte, ce qu'il représente, ce qu'il est capable d'être, de faire. Et puis après, par le voyage, j'ai finalement, par besoin de mémoire, par besoin de partage, puisque j'ai quand même, pour mes grands voyages, voyagé seule, été amenée à écrire, à faire de la photographie, aujourd'hui un film, qui sont plus effectivement des outils quelque part, qui permettent de retranscrire les émotions, les lumières, les rencontres, les rires, tout ce qui rend... ce quotidien tellement passionnant.
Alors à propos du film qui a donné le titre de cette émission aussi, « Semeuse de joie », j'avais lu quelque part cette phrase, je crois qu'elle est de vous, « Une confrontation pour ces nonnes entre l'isolement extrême et une vie moderne acquise à la globalisation ». Parlez-nous de la naissance de ce film, de sa réalisation et de son impact aujourd'hui, parce qu'il est important apparemment.
Oui, alors tout ça n'était pas prévu comme cela. C'est vrai qu'on me le dit souvent cette année que semeuse de joie, une résonance particulière. Je dirais que nous, on a été sans doute quelque part un peu dépassés par tout ça, parce qu'au départ, c'est un simple rêve entre amis. Moi, j'ai passé du temps avec elles, je les ai rencontrées, ce sont des femmes qui m'ont marquée pour le sens de l'harmonie qu'elles ont, parce que c'est d'abord un groupe de femmes, des individualités très différentes, mais c'est quand même un groupe de femmes qui a un sens très aiguisé de l'harmonie. Et j'ai rarement rencontré des femmes avec des personnes avec aussi peu accès à l'éducation, qu'ils soient religieux, qu'ils soient laïques. Hein. Ce sont des femmes religieuses quand même, des nonnes bouddhistes. Mais être aussi proche de leurs valeurs au quotidien. Et c'est vrai qu'elles m'ont profondément marquée. Elles vivent dans une vallée un petit peu reculée, un petit peu isolée, notamment l'hiver de l'Himalaya, dans le nord-ouest de l'Inde. Certaines n'avaient jamais quitté la vallée. Et elles n'ont eu aucune éducation. Moi, à l'inverse, c'est le voyage qui m'a amenée à elles. Moi, j'ai eu la chance, en tant que femme libre, de voyager, de découvrir le monde par le travail, par ma simple envie, ma simple volonté, Donc, et puis j'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation, d'avoir le choix de mon éducation jusqu'où je pouvais le vouloir.
Ce qui n'était pas leur cas, donc.
Ce qui n'était pas du tout leur cas.
Et il s'est passé quoi tout de suite après, alors ?
Après, ça a pris des années parce que je les ai rencontrés, j'ai appris leur langue et c'est en parlant leur langue qu'on a pu approfondir nos relations. Notre amitié. Et ben, comme des amis, comme n'importe quels amis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on finit par parler de nos vies, de notre intimité, de nos rêves. Et quand on parle de nos rêves, ben, on finit par rêver ensemble, tout simplement. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis, moi, j'ai lancé une fois dans un moment de rire où on travaillait ensemble, enfin, vraiment un moment un peu délirant. Oh, ce serait bien si on voyageait ensemble. Et là, il y a des choses qui ne s'expliquent pas toujours, hein, mais qui tout d'un coup résonnent. C'est une étincelle dans les yeux, dans les miens, dans les leurs. Ça fait du sens. Et ce sens-là, on le garde au fond de soi et on se dit, là c'est pas bête. C'est pas une blague. Il va falloir lui donner forme à ce rêve. Il tient, il se tient. Il est tellement logique tout d'un coup. Il est tellement évident. Et puis voilà, et puis après ça a pris encore des années pour se construire parce que c'est pas anodin. Et donc là, il faut faire les choses bien. C'est un petit peu la façon dont j'ai toujours fait mes voyages. J'ai toujours pris le temps de les construire, de leur donner une forme, de savoir pourquoi et ou pourquoi pas je tenais à le faire pour éviter le maximum de problèmes, pour ne pas se perdre en route et dans ce cas de figure pour qu'il n'y ait pas de retour de boomerang pour elles non plus.
Et tout ça donne un film que vous êtes d'ailleurs venu présenter quelque part avec elle, accompagnée. Ça a été le cas dans mon village. Ça surprend beaucoup de gens, mais ça laisse un impact incroyable de voir ces nonnes. Elles étaient 10, je crois, avec vous, 9, je ne sais plus.
9, oui, 9.
Pour présenter ce film et échanger avec le public, malgré le barrage de la langue. Vous étiez là pour faire l'intermédiaire.
Ouais, je fais le relais. Ouais,
ça s'est très bien passé. Le film se passe bien aussi, il est bien reçu ?
Oui, il est vraiment très bien reçu et c'est plutôt un grand bonheur forcément de le vivre comme ça et de voir cette réception par les gens ici, mais pas seulement parce qu'il a été très bien reçu par les villageois aussi, et ça c'était pas anodin. J'ai choisi de faire un film, j'ai effectivement plus spontanément, j'aurais moi écrit ou fait de la photographie noir et blanc, qui est ce que j'avais fait dans mon voyage de 2 ans à travers l'Asie qui m'a amené à les rencontrer, à passer un premier hiver là-bas. Sauf qu'elles ne liront jamais, et la photographie noir et blanc, ça leur parle quand même pas tant que ça. C'est pas instantané comme apprentissage, comme lecture, comme compréhension. Alors que le film, l'image filmée, c'est universel. Et c'est le seul langage véritablement universel.
Très bien. Les voyages, nous l'avons compris tout de suite, représentent quelque chose d'important pour vous. C'est pas n'importe où que vous allez, souvent dans des coins méconnus et que vous aimez faire connaître. Vous pensez, puisqu'il s'agit de notre planète, cette émission, vous pensez que la planète aime bien qu'on la visite ?
Eh bien, c'est une excellente question et je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je pense que l'être humain a besoin de la visiter.
C'est donc une excellente question quand on n'est pas sûr d'avoir la réponse.
Exactement. C'est qu'elle amène à débat sans doute, à réflexion. je vous avoue, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose la question avec les bilans carbone. Et il y a souvent ce discours, moi je vois par mon travail, je suis amenée à voyager de façon assez rapide, assez instantanée, assez loin. Et en termes de bilan carbone, ce n'est pas toujours brillant. Alors, le bilan carbone, c'est une nouvelle façon de voir le monde, quelque part. Est-ce que c'est la bonne ? Je ne sais pas. Le voyage, pour l'être humain, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Parce que c'est ce qui l'amène à aller voir par-delà sa bulle, à aller voir par-delà l'horizon et à prendre conscience de finalement qui le nourrit, où il est et qui y a d'autre. Et c'est ce qui peut amener, je pense, à... Moi, je suis persuadée que le voyage est un vecteur d'humanité.
Surtout
mais
que
pas seulement.
Surtout que le voyage, vous l'avez entrepris, je cite un petit passage, « Assoiffé de rencontres et d'horizons, j'ai traversé l'Asie du lac Baïkal au Bengale. » Au fil de l'eau, parfois accompagné de chevaux, d'un chameau, d'un âne ou d'une bicyclette indienne. Vous vous déplacez souvent à pied, si j'ai bien compris ?
Mais c'était dans ce voyage-là, en tout cas, parce que le voyage que j'ai avec les nonnes, évidemment, c'était plus tout à fait pareil. Hein, on a pris les transports en commun. Et en France, on avait nos deux voitures qui nous ont permis de faire un tour de France. Donc c'est à chaque fois très différent. Par contre, dans ce voyage de 2 ans, ça a été une vraie volonté pour moi d'aller m'immerger dans des univers où l'homme et l'eau ont une cohabitation parfois assez rude, voire extrême. Et le moyen de locomotion a été à chaque fois finalement le moyen logique par rapport à cet univers ou le moyen que les gens utilisent localement. Je pense à l'âne pour les Ouïghours, le chameau dans le désert de Gobi, les chevaux dans les steppes, la bicyclette indienne le long du Gange. Voilà, donc c'était effectivement un choix assez logique par rapport au voyage que j'avais entrepris.
Vous êtes aussi promené, j'allais dire, déplacé en forêt vierge sur un chantier de barrage, hein, vous racontez ça, en immersion, qui a été suivi d'une remontée africaine à pied du Gabon en France, c'est ça, en 2003
oui, c'était en 2002, je crois, ouais, 2003 ou 2003.
Je me suis renseigné, oui.
Mais moi, je ne me souviens même plus des dates. Oui, c'était par transport en commun. J'avais pris toutes sortes de transports en commun du Gabon en France. C'est vrai que je venais de passer un an en pleine forêt vierge. Et pour le coup, à l'époque, on n'avait pas encore téléphone, internet, etc. Et il n'y avait pas de village. C'était vraiment en pleine forêt vierge primaire, ce qui est assez exceptionnel. Mais on ne rentre pas, on rentre pas de façon instantanée comme ça quand on vient de passer un temps assez important dans un univers où justement, dans un univers qui a justement modifié son rapport au temps, à l'instant, et c'est pas anodin de rentrer. Et là, j'avais dit, écoutez, d'abord, j'ai ce voyage de 2 ans en préparation dans la tête, tout le monde le savait. Donc, quelque part, rentrer par les transports en commun me préparait à ce voyage. Et puis, j'ai dit, j'ai besoin d'un tampon, je rentre pas comme ça, c'est pas possible.
Le moyen, j'allais dire, Cécile, le moyen de locomotion m'apparaît chez vous, vous me dites si je me trompe, aussi important que la distance à parcourir. C'est-à-dire que c'est pas anodin le moyen que vous choisissez. Vous prenez le moyen local. C'est ça. On peut dire ça pour vous.
Et je pense que j'aime beaucoup m'immerger véritablement. C'est pour ça que j'aime aussi apprendre les langues. J'aime apprendre la vie des gens. Et c'est ce qui avait véritablement motivé ce voyage à l'époque. Mais même dans mon travail, je me rends compte que je le fais aussi. J'aime avoir à m'immerger, à essayer de me rapprocher le plus possible des gens, de leur culture. La langue est pour cela un élément, un vecteur assez essentiel. Quant aux distances, j'y fais jamais trop attention, en fait. Et je les connais jamais vraiment. C'est un peu comme les années, d'ailleurs.
En préparant cette émission, je suis tombé sur une phrase de Frédéric Lenoir qui dit ceci. « Dans le monde occidental, on veut tout, tout de suite. Cette attitude nous coupe de toute une série de processus qui sont lents. » Donc les voyages, c'est aussi ça, peut-être.
Oui, c'est pas moi qui vais contredire ça, parce que je vous avoue que les hivers passés aux Anskars, j'en ai passé plus d'un maintenant, sont effectivement une immersion dans la lenteur, et ça fait du bien au corps et à l'âme, parce qu'on a besoin d'avancer au rythme qui est le nôtre, ou celui de chacun, et je pense qu'on est souvent dépassé, effectivement, en termes de rythme dans le monde moderne, et... forcément la meilleure des choses.
Ça fait du bien à la rencontre aussi, qui s'avère possible.
C'est pas compliqué.
On est trop pressé, c'est pas possible.
Les semeuses de joie, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à vivre tout ce qu'on a vécu aujourd'hui après 11 années ? Parce que quand je les ai rencontrées, j'étais dans un moment de ma vie où j'ai eu où j'avais en main véritablement le plus grand atout de l'homme, qui était le temps, justement. J'avais pris le temps, j'avais le temps, et j'ai eu le temps de les rencontrer, le temps de partager du temps avec elles. Et c'est ce qui est le ciment, le socle de tout ce qu'on a vécu derrière.
Je reviens sur le film, peut-être pour conclure sur la partie film. On peut voir ce film bientôt, ou comment?
Oui.
Dites-nous un peu.
Oui. En fait, là, il y a eu donc les avant-premières, on va dire, en octobre-novembre, où les nonnes étaient avec moi en France, et on a fait un grand tour de France. On a énormément projeté ce film, finalement. Enfin,
elles sont rentrées maintenant. Oui.
Oui, elles sont rentrées, oui, elles sont chez elles, et tout va bien. là, il va à nouveau y avoir des projections. Il y en aura encore beaucoup, hein. Je ne les ai pas toutes en tête. Par contre, on peut aller visiter le site internet.
Vous nous le donnez de
oui,
mémoire, si vous...
http://, donc Baikal, Baikal, Bangkok, bangkok.org. Et il y a toutes, donc dans la rubrique Semeuse de joie, il y a toutes les dates de projection. Il y en a en février quelques-unes, là, dans la région. Et puis, il y aura, en fait, le film sera diffusé sur France 5. Mais on n'a pas encore la date, mais ce sera en mars-avril, sans doute, dans leur cycle Humanité.
Donc on va rassurer tous les amis qui ont rencontré avec vous ces nonnes lors de la présentation du film partout en France. Elles sont bien rentrées, elles vont bien, vous êtes toujours en contact avec elles.
Oui, oui, je les appelle souvent.
Très bien. C'était une salsa cubaine. J'ai cru que mon invité allait se mettre à danser. Il ne manquait pas grand-chose pour que ça se passe ainsi. Vous comprendrez pourquoi dans un petit moment, parce que je crois qu'elle danse la salsa cubaine, le tango argentin, enfin on n'en finit plus, c'est extraordinaire. Vous connaissez l'auteur de ce morceau,
Yuri Buenaventura? C'est comme les dates, je ne connais pas les noms des morceaux.
Bien, je rappelle
à nous. Mais je connais le morceau.
Voilà, très bien, merci.
Pour l'avoir dansé beaucoup.
À tous nos auditeurs et auditrices que je reçois aujourd'hui dans cette émission La Maison Commune, je reçois Caroline Riegel. Nous avons parlé du film qu'elle a réalisé avec son groupe de nonnes bouddhistes dans la vallée himalayenne. Nous partons sur un autre volet de votre vie, vous l'avez signalé au départ. Vous avez fait, comme on dit, j'aime pas l'expression faire dans l'humanitaire, mais tant pis, elle m'est venue comme ça. Vous êtes parti, vous avez créé une association, vous avez navigué un petit peu dans le monde dans un esprit d'aide et de soutien à des populations, à des gens, à des structures.
Mais j'ai même plus finalement, puisque j'ai fait une vraie immersion dans le monde de l'humanitaire en 2011 au Sud-Soudan avec le CICR, le Comité International de la Croix-Rouge. Donc ça, je l'ai vraiment voulu. Je savais que j'y viendrais quand j'étais plus jeune. Je rêvais d'être médecin sans frontières. On m'avait expliqué que ce n'était pas un métier. Et voilà, dans une autre vie, je serais sans doute médecin sans frontières. En tout cas, je savais que je finirais par avoir au moins une première expérience dans ce monde de l'humanitaire, qui est un monde difficile, un monde rempli de paradoxes, un monde intéressant malgré tout. C'est un monde controversé, parfois à juste titre, parfois à tort, mais c'est un monde qui n'est pas facile de décrire non plus comme ça. Voilà. Après, j'ai aussi dans le domaine du développement, donc beaucoup moins que le CICR, dans le CICR, l'humanitaire, donc c'est plus dans des zones vraiment de guerre ou de conflit, dans des zones difficiles. Après, j'ai aussi été amenée à aider Rencontres au bout du monde dans ces projets de développement aux Anskar, donc on est dans un univers beaucoup plus pacifique. Et au final, oui, j'ai monté une association...
Qui s'appelle ?
Tixpa, qui veut dire goutte d'eau en tibétain, qui résonne un peu avec...
T-H-I-G-S-P-A, c'est
ça. Oui, c'est ça, oui. Donc, qui résonne un peu avec ce voyage de la goutte d'eau que j'ai fait en 2004-2005 à travers l'Asie.
Et avec quel projet, alors?
En fait, j'ai monté cette association quand on a décidé avec les nonnes donc, de faire ce voyage et de faire un film qui était vraiment un outil de mémoire en me disant, mon Dieu, si jamais ce film rapporte de l'argent, il faut qu'on puisse le partager, il faut qu'il puisse servir à quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est vraiment comme ça, c'était vraiment dans cette idée-là, un peu naïf, parce que faire le film a été beaucoup plus compliqué que prévu. Mais il se trouve que finalement, donc sans projet spécifique autre que pouvoir aider la nonnerie si on avait les ressources pour le faire. Il se trouve que pendant notre voyage en Inde, une école a ouvert à la nonnerie. Et en rentrant du voyage, on s'est retrouvé face à la problématique des infrastructures. On est dans une toute petite nonnerie, vraiment, c'est un tout petit endroit vieux de 500 ans pour la partie la plus ancienne. Et donc là, il y a une école qui ouvre, il y a tout d'un coup un lama mis en poste, il y a une quinzaine de fillettes, sauf qu'il n'y a pas de salle de classe, il n'y a rien, il n'y a pas de logement. Et donc, du coup, bon, bah, moi, là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus proche de mon métier, d'ailleurs, hein, puisque je suis ingénieur en construction, en génie civil à la base. J'ai dit, bon, bah, je vais me lancer dans la construction de l'école. Et là, c'est avec une jeune architecte, Amandine Lepers, qu'on travaille effectivement sur la construction des infrastructures à la nonnerie pour pérenniser cette nouvelle école.
Et c'est en cours actuellement ?
Oui, c'est en cours, oui, oui.
Ouais. Donc, bâtiment scolaire à la nonnerie, donc de Tungri, Tungri, hein,
c'est Tungri, ça oui.
Tungri, oui. Et vous avez, d'ailleurs, dans votre périple là-bas, vous avez enseigné, je crois, pendant quelques mois.
Oui, c'est vrai,
les,
ouais,
les
ouais.
mathématiques, ça s'impose.
Oui.
Bah, les, oui, mais les sciences.
Mes parents sont profs de maths, ma soeur est prof de maths, j'ai baigné dans le monde des mathématiques, c'était logique que j'enseigne les mathématiques.
Et ça,
en
c'était
effet.
Dans l'école gouvernementale.
Bah, c'est l'école gouvernementale qui est vraiment juste au pied de la nonnerie, hein. on est vraiment dans une très grande proximité, hein, entre la nonnerie et le village, et j'ai effectivement enseigné plus de six mois dans cette école, ce qui fait que c'est vrai que je connais... plutôt voilà tous ces petits, je les ai vus grandir, et les petites filles qu'on voit aujourd'hui à l'école de la nonnerie, bah, je les ai finalement vues naître et grandir.
À votre rire communicatif qu'on a pu entendre à l'antenne ou hors antenne, j'ai bien l'impression, et je ne me trompe pas, que vous aimez partager ce que vous ressentez. Vous faites des conférences, vous êtes conférencière, vous faites de la photo, donc vous écrivez, vous faites tout ça. Partager, c'est important pour vous de dire, d'écrire.
Mais je pense que c'est une chance de pouvoir le faire, en fait. Alors, conférencière, c'est vraiment par... J'ai plus écrit, effectivement, des livres et fait de la photo.
Et les conférences. Plusieurs livres.
Oui, enfin, il y a le récit en deux tomes de ce voyage à travers l'Asie et le récit de mon année en forêt vierge gabonaise. Il y a un collectif sur le voyage au féminin. Mais par contre, les conférences, c'est vraiment... C'est quelque chose qui est venu...
Plus récemment.
Non, par rapport au livre, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours répondu présente ou j'ai essayé. Mais j'ai jamais demandé, enfin, j'ai jamais cherché à être conférencière, en fait. C'est ce qui n'est pas tout à fait la même démarche, puisque j'ai été invitée, il se trouve, à des festivals, par des associations. Et du coup, il se trouve que j'en ai fait beaucoup depuis. Mais...
Vous aimez communiquer aussi par la photo, par des expositions, peut-être, non ?
Ben, il semble. La photographie, c'est un peu particulier, parce que j'ai vraiment fait un travail photographique pendant de photos noires et blancs, argentiques à l'époque, pendant ce voyage de 2 ans. Et je pense que c'était le socle, vraiment, de ce que je voulais faire. Sauf que, quand je suis rentrée, je me suis confrontée au changement assez radical et qui a été assez rapide en France, plus qu'en Allemagne, par exemple, de l'argentique vers le numérique. Et moi, j'ai eu un peu de mal à m'adapter, pour le coup, parce que je revenais de ce voyage, j'étais dans une démarche tellement opposée à finalement cette envolée vers le modernisme, vers la technologie. Moi, j'avais presque fait, finalement, des pas en arrière dans ce sens, par rapport à ça. Et ça n'a pas été instantané, vraiment, de passer, de m'adapter. Et je n'ai pas fait beaucoup de photos, finalement, pendant beaucoup d'années après le voyage et ce travail photographique qui m'a amené, effectivement, à faire des tirages et des expositions.
J'ai noté aussi, quelque part, que vous aimiez la montagne. Ça me paraît évident. Hein.
La danse... Oui, Grenoble, c'est bien pour ça.
Grenoble, c'est bien pour ça.
Les Oscars aussi, d'ailleurs.
L'Himalaya aussi. Ouais. Vous aimez la montagne, la danse, on l'a dit, la guitare espagnole. Vous jouez de la guitare, je crois.
Oui, je fais de la guitare.
Danser la salsa cubaine, le tango. Que vous jouez au hockey sur gazon. Et vous parlez 7 langues. J'ai entendu 7 langues.
J'en ai apprises de façon, voilà, lu, écrit, grammaire, parler 7. Oui, il y en a une que j'ai quand même sérieusement oubliée, qui est le russe, puisque je n'ai pas été amenée à la pratiquer depuis. Donc vraiment, voilà, mais les autres, je les pratique encore.
Ce qui veut dire que c'est une façon de dire que la diversité et la rencontre apparaissent, et c'est un peu une sorte de conclusion, dans votre parcours, comme une nécessité environnementale, j'allais dire, pour vous.
Mais je pense que la diversité, c'est essentiel, en fait. C'est essentiel dans nos vies, c'est essentiel dans l'humanité, c'est essentiel pour l'être humain, pour la planète, et c'est le reflet de la planète, d'ailleurs, hein, la diversité.
Vous pensez qu'elle a un gros avenir encore, la planète, ou plutôt nous sur la planète ?
Ben, plutôt nous sur la planète, effectivement. Si on se coupe l'herbe quelque part, c'est la nôtre. Hein. Enfin, c'est pas la planète, je crois qu'elle nous survivra, ou en tout cas le système planétaire. Voilà, il y a des...
Et notamment dans l'accueil de cette diversité, de la rencontre. Je crois que c'est ça l'important.
Oui. Enfin, c'est pour moi, c'est quelque chose vraiment d'essentiel et quelque chose que les voyages, que mon parcours m'a amené à découvrir, apprécier et à chérir.
Comme à mon habitude dans cette émission, je viens de remettre à mon invitée, Caroline Riegel, un petit bout de papier sur lequel j'ai gribouillé une phrase de Victor Hugo. Je suis passé dans le tram tout à l'heure, il y avait l'arrêt Victor Hugo. J'ai dit, tiens, allez, hop, c'est bon pour Victor Hugo, que j'aime bien. Ce papier, vous allez nous le lire. On vous laissera quelques secondes de réflexion. Vous le découvrez en même temps que nous, hein, c'est le but du jeu. Et puis ensuite, vous ferez votre conclusion avec ou sans ce papier, comme vous voulez. Alors, on vous écoute.
Donc Victor Hugo a dit « Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. »
Oui, et il a rajouté
« J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. »
J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. Belle conclusion. On vous laisse la parole dans une minute. Même pas. Alors Caroline Riegel, une conclusion avec peut-être cette phrase de Victor Hugo qui vous a inspiré.
Pour le bon sommeil, je n'oublierai jamais les cieux du Gobi quand pendant 2 mois j'ai eu la chance de dormir sous les étoiles et de me sentir vraiment comme une prisonnière lorsque j'ai retrouvé 4 murs et un toit. Pour la conscience tranquille ou la destinée prospère, je n'oublierai jamais non plus ce que j'ai pu ressentir en voyage auprès des populations et finalement qui représentent une majorité de ce monde, les plus simples, où effectivement la destinée trop prospère vous éloigne finalement de cette majorité de l'humanité.
Eh bien, écoutez, merci Caroline Riegel d'avoir accepté notre invitation dans cette émission La Maison Commune. Je suis certain que la planète a bien aimé vos semeuses de joie.
Merci à vous.
Nous recevrons la semaine prochaine Vincent Néric qui nous parlera du livre vert de la montagne.